dans le retour.
Je suis en vie. On sait pas trop ce qu'on s'en va. Magnifique, c'est même pas le mot pour décrire.
Le retour de Boulevard 102.
Je vais même pas expliquer ma réaction. J'étais la fille la plus heureuse sur Terre.
Avec Denis, Véro et Audrey. Gravel.
Boulevard 102.1.
Il y a beaucoup d'actualités pour ceux qui aiment ça, suivre ça dans les prochains instants. On va d'ailleurs jaser avec Antonine Yacarini, notre analyste politique, mais on doit faire deux petits croches juste avant. Un dans Circule, puis l'autre dans le hockey.
Peut-être commencer par la capitale direction Est en ce moment à la hauteur de Robert Bourassa. Très au ralenti. Ouest, il y a encore quelques problèmes à la hauteur de Laurentienne. Si vous êtes sur Henri IV direction Nord en ce moment, il y a des ralentissements entre Wilfrid Hamel et la capitale direction Sud. C'est de Wilfrid Hamel au pont. C'est difficile au moment où on se parle. Duplessis Sud de Charest au pont Pierre-Laporte. Très au ralenti aussi. Charest direction Est, c'est à la hauteur de Robert Bourassa que ça se passe. Il y a des problèmes sur le pont direction Nord. Je vous dirais, là, à partir de la 20 sur la rive sud jusqu'à à peu près boulevard Laurier, mettons, là, super difficile de circuler sur le pont. Évidemment, si vous avez plus de détails, ça passe par le 88-971-1021 et sur la 20 direction ouest, c'est concentré plutôt à la hauteur de Chemin des Îles.
Merci Audrey, je me tourne du côté de Max. C'est un échange qui retient ton attention?
Non, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour les
de
Devils du New Jersey. Le joueur étoile Jack Hughes qui a subi une opération va rater le reste de la saison. Blessure à l'épaule, 70 points en 62 matchs cette année, 27 buts pour Jack Hughes. Alors qu'on pensait que les Devils tournaient enfin le coin, ils pouvaient enfin peut-être faire un bout de chemin en série. Leur meilleur joueur qui va rater le reste de la saison et les séries devrait être prêt pour le prochain camp d'entraînement, mais c'est une grosse tuile qui leur tombe sur la tête.
Merci Max, je vous parlais d'actualité, puis une de mes préférées pour en jaser, c'est Antonine Yacarini qui s'installe avec nous. Puis hier soir, j'ai tellement pensé à toi, j'aurais dû te texter. J'écoutais l'adresse de Trump du côté du Congrès, d'ailleurs d'une durée absolument hystérique, puis à un moment donné...
Interminable.
Le cerveau me coulait par le nez, fait que j'ai arrêté. Ouais. Puis là, je me suis dit, bon, regarde, on est rendu, il est 16h30, ça fait quand même un bout de temps que c'est passé, on sera pas obligé de parler de Trump. Mais là, on n'a comme pas le choix. Un peu plus tôt aujourd'hui, il y a eu un appel téléphonique de 50 minutes avec Justin Trudeau, ce qui est plutôt long pour un appel entre deux chefs d'État pour une situation comme celle qu'on vit actuellement. Mais ça a été la réaction de Donald Trump sur les médias sociaux par la suite, alors qu'il a sous-entendu qu'il ne comprenait pas trop ce qui allait se passer avec les élections canadiennes, que Justin Trudeau n'était pas capable de donner une date. Fait que lui, ce qu'il comprend, c'est qu'actuellement, Justin Trudeau utilise la situation pour rester au pouvoir. Est-ce que consciemment, il sait ce qu'il fait ou c'est de la pure ignorance?
Moi, je pense qu'il sait très, très bien ce qu'il fait. Là, il fait un peu d'ingérence par le fait même de parler des élections, de faire son analyse comme quoi Justin Trudeau instrumentalise la situation, ce qui n'est pas complètement faux. On s'entend que les libéraux profitent quand même un peu du contexte politique actuel. On a vu une remontée momentanée dans les sondages. Bon, là, la ballonne est en train de redégonfler. On en reparlera dans quelques minutes. Mais il y a quand même un contexte qui amène un ralliement autour du gouvernement, là, quand on a un adversaire qui est externe.
Mais pas autour de l'individu, par exemple, parce que dimanche, on est en vote. On va élire un nouveau chef du Parti libéral du Canada. Je comprends qu'il y aura peut-être une petite période de transition,
Mais c'est ça comme pas si Justin Trudeau qui va en profiter.
Il n'est pas en train de se menotter au pied de son bureau pour ne pas se faire sortir de la maison.
Que Donald fait peut-être un peu de projection sur
les gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir.
Ben, tu sais, on a des doutes hein, que déjà, il a commencé à préparer le terrain dans ses discours. Peut-être que, on ne sait pas, on va avoir besoin de plus que 4 ans hein, pour changer l'Amérique
c'est vrai qu'on a commencé
en profondeur. On commence à entendre des messages comme ceux-là. Donc, non, c'est ça. Justin Trudeau, lui, il ne va pas rester nécessairement s'accrocher au pouvoir. Mais c'est vrai que ça peut être un peu compliqué à comprendre du côté sud de la frontière, notre système politique, où quand on a un gouvernement qui est minoritaire, la date des élections est effectivement pas claire. Puis probablement que M. Trump a eu un briefing avec une note de briefing qui expliquait la situation politique au Canada et qu'il le sait très bien. Mais lui a son public à lui, qui comprend absolument rien au régime parlementaire britannique-canadien.
Puis qui s'y intéresse pas non plus.
Non, donc ça sert simplement
fait qu'il dit bien ce qu'il veut. Là.
Ben, c'est ça. Il dit ce qu'il veut, puis il laisse entendre que du côté du Canada, on a un premier ministre qui s'accroche, qui joue avec la date des élections, puis son public comprend pas vraiment ces nuances-là.
On avait un auditeur tantôt qui nous écrivait « Quand est-ce qu'on est devenu l'ennemi? » Je trouvais ça intéressant.
Ça virait bout pour bout.
Où c'est qu'il y a eu un problème qu'on n'a pas compris, mettons? Là.
Hier, sur la plateforme X, j'ai posé la question aux gens. Je disais, est-ce que dans l'histoire, je disais, mettons, à partir de la Renaissance, là, on ne montrera pas nécessairement dans l'Antiquité, il y a deux alliés aussi proches qui ont vu une situation le survirer aussi rapidement de bord. Bon, les gens m'ont envoyé toutes sortes de moments de l'histoire super intéressants. Moi, je suis une passionnée d'histoire.
Dis-moi que
notamment
ça fait
le
bien,
pacte germano-soviétique. Mon Hitler Dieu. Et Staline avaient signé un pacte de non-agression. Puis évidemment, c'est très rapidement, ce pacte-là a été brisé. Mais l'Allemagne nazie et les Soviétiques, c'était pas des meilleurs alliés comme les États-Unis et le Canada. On m'a donné d'autres exemples qui sont un peu plus mineurs dans l'histoire. Mais cela dit, c'est quand même historique là, de voir cette relation si forte des alliés, des partenaires économiques et des amis et des voisins qui tout à coup se retrouvent dans une guerre commerciale avec un discours même qui va plus loin que la simple guerre commerciale. Là, parce que évidemment, on se rappelle que M. Trump répète son message de menace d'annexion régulièrement. Encore hier, dans son discours, il a parlé plutôt du Groenland et de Panama. Mais il ne s'agit pas de blagues, là. Donc,
puis de donner le narratif aussi que le Canada tue des Américains avec son fentanyl. Puis hier, ça a été répété à je ne sais pas combien de reprises en disant « à cause du fentanyl qu'il envoie chez nous, c'est de belles jeunes personnes qui sont décédées, puis c'est la faute du Canada. Puis... »
On en parlait tantôt, mais tu sais, il y a une chambre d'écho qui se crée en ce moment parce qu'il y a juste lui pour occuper le stage, là, puis il en profite
mais c'est
de
c'est une
ça,
stratégie
là.
De communication de nous bombarder constamment. Il occupe tout l'espace, puis...
Il n'y a personne pour répondre.
Il n'y a personne pour répondre. Les démocrates sont dans leur torpeur la plus totale là, en ce moment.
Il n'y a même pas de nom qui circule. Il n'y a pas personne, mettons, du champ gauche qui pourrait être sur les médias sociaux, lui répondre. Il n'y a rien, c'est le néant, c'est le vide, c'est triste.
Ou c'est
là.
Des personnalités qu'on est un peu habitués puis que ça fait longtemps qu'on entend. Par exemple, des Bernie Sanders, mais qui sont un peu l'extrême-gauche aux États-Unis. Pour nous, c'est de la gauche quand même relax, étant donné qu'on le centre n'est pas au même endroit. Mais c'est ça le problème avec les démocrates en ce moment. C'est aussi ce qui a mené à leur perte. Hein. C'est d'avoir un discours qui était très peu pragmatique, d'avoir des discours qui étaient
De la réalité des gens, là,
oui,
des Américains.
Oui, puis là, je vais réutiliser un terme que Donald Trump utilise à outrance, mais qui, les démocrates étaient très woke.
Là, l'Amérique est plus woke, il l'a dit hier.
Un peu moins pragmatique, un peu moins sur le gros bon sens, donc qui parle un peu moins aux gens. Donc, Donald Trump occupe tout cet espace-là et il n'y a personne pour lui répondre.
Si on retraverse de notre côté de la frontière, on a mentionné que, oui, les libéraux, ça les avait bien servi quand même, la situation actuelle. Entre autres, c'est Justin Trudeau qui a l'air d'un gars qui n'a plus rien à perdre. On l'a vu dans ses adresses, entre autres, du côté de Trump. Sauf que là, actuellement, dans les derniers sondages, on voit que la réalité est peut-être en train de rattraper le Parti libéral du Canada, que cette fameuse bulle-là était peut-être très fragile et on voit qu'il y a eu une bonne chute des intentions de vote pour eux. Puis ce qu'on disait, c'est que là, vraisemblablement, que c'est Carney qui va être installé à la tête du parti. Très rapidement, il va décider d'aller en élection pour montrer au Canada « Hey, moi, je suis prêt à aller affronter Trump ». Est-ce que les sondages influence les stratégies des partis quand vient le temps de prendre des décisions comme celles qui vont être prises la semaine prochaine?
Absolument. Puis, pas seulement les sondages, mais aussi les dates. Hein. Il y a de la stratégie entourant les dates. Là, il y a le congé de Pâques s'en vient bientôt.
Oui, c'est donc, dans 40 jours. Donc, on a parlé de carême aujourd'hui.
Est-ce qu'on met l'élection, on déclenche avant? Après, est-ce que, par exemple, il pourrait avoir un jour de scrutin qui est juste après le long congé de Pâques? Ça veut dire que les jeunes vont moins voter, on est en déplacement. Donc là, le vote est plus âgé. Il y a tout un jeu de données comme ça, puis de démographie quand on fait des stratégies de déclenchement des élections. Absolument. Puis, bon, il y a des élections à date fixe quand c'est des gouvernements majoritaires, mais là, c'est un gouvernement minoritaire et c'est la prérogative du premier ministre de déclencher l'élection au moment que ça lui convient. Puis là, c'est sûr que on est un peu dans une montagne russe avec les sondages. Il y a 3 mois, Pierre Poilievre avait une autoroute vers la majorité. Il n'y avait pas grand-chose qu'on imaginait qui pouvait changer tout ça parce que le gouvernement libéral était tellement usé, les gens n'étaient plus capables, ils étaient tannés. Là, la situation a complètement reviré de bord. Je ne pense pas que Donald Trump savait qu'il allait autant nuire aux conservateurs de notre côté de la frontière, même s'il dit qu'il n'aime pas Pierre Poilievre, qu'il n'est pas MAGA. Cela dit, il lui a vraiment nui parce que les messages de Pierre Poilievre étaient devenus complètement désuets. Ça ne résonnait plus chez les gens. Les gens n'avaient pas envie d'entendre « Canada is broken ».
Parce que c'était ça, sa ligne de communication, mm-hmm. là, avant de plus s'en aller vers Axe de taxe puis toute l'équipe, c'était de dire qu'on était un
Axe
pays qui
taxe,
était brillé, brisé.
Le Canada est brisé, puis Justin Trudeau était le porteur de tous les malheurs de l'univers. Donc là, à partir du moment où est-ce qu'on changeait d'adversaire, où est-ce que le focus s'en allait aux États-Unis, Pierre Poilievre s'est retrouvé en difficulté. Sauf que la balloune Mark Carney, moi, je ne pensais pas qu'elle allait dégonfler aussi rapidement, mais les débats du Parti libéral du
ça
Canada...
Ça lui a nui énormément, là.
C'est ce qu'on voit dans les sondages en ce moment. C'est le mirage qui s'efface.
C'est le dernier sondage qui est sorti léger quand on vous dit que la balloune s'est dégonflée. Si Mark Carney est à tête du Parti libéral du Canada, ils sont à 33% dans les intentions de vote, alors que le Parti conservateur vient de reprendre la tête à 41%. Fait que c'est une bonne marge de différence.
Hein? C'est-tu la langue qui lui a nui dans les débats?
Ça lui a nui. Moi, je pense que si le débat en anglais avait été en français... si le débat en anglais avait été avant celui en français, ça aurait déjà été un peu mieux. Mais le problème, c'est que moi, je l'ai écouté, le débat en anglais. Il n'était pas extraordinaire.
Il était un économiste et non pas un politicien.
Oui, puis c'était très en surface. C'était pas incisif. Il prenait pas sa place. Donc, quand on l'imagine débattre avec... Pierre Poilievre, François Blanchet, puis Jung Meeting, tu te dis, ça va être un peu difficile. Moi, je pense que dans l'équipe de Carney, on doit être très, très déçus de voir un sondage comme ça parce que ça va faire réfléchir aussi les électeurs, les membres libéraux quand ils vont choisir. Ça semblait l'évidence que ça allait être Mark Carney. Puis là, peut-être qu'on va se dire, si la balloune est déjà en train de se dégonfler, on est peut-être mieux d'aller avec quelqu'un qui a plus d'expérience.
Je pense que dans le débat aussi, quelque chose qu'on a vu, c'est que... Puis c'est une critique qui revenait beaucoup, puis les conservateurs en mettaient, puis on a vu le débat, puis on s'est dit, ouais, ils ont peut-être raison, ils sont toutes pareilles. Ça se chicanait pas, c'est toutes les mêmes idées, puis mm-hmm. T'as raison, puis c'est vrai. Fait que là, les conservateurs avaient raison de dire, vous voyez, c'est pareil comme si c'était Justin Trudeau, là.
Exactement. Donc, c'est venu renforcer les messages de Pierre Poilievre, qui résonnaient moins, mais qui tout à coup recommence à faire beaucoup de sens dans l'esprit des électeurs. Et on voit l'effet sur les sondages déjà, là, donc ça a été rapide.
Les chances qu'on pourrait décider la semaine prochaine d'y aller avec une transition, de ramener tout le monde du côté d'Ottawa, d'essayer de faire une alliance avec le NPD pour repousser le plus possible une possibilité d'élection et de se retrouver avec vraisemblablement un premier ministre qui n'a jamais été élu. Selon toi, c'est-tu d'un carton?
C'est fou comment c'est un dilemme, là, parce que tu te dis, bon, est-ce que mon momentum va être meilleur dans 6 mois? Pas nécessairement. En même temps, tu pourrais faire le calcul, dire un Mark Carney qui gouverne, parce qu'en débat, c'est difficile. C'est pas un politicien. Mais son français puis son niveau d'aisance en débat est suffisant, mm-hmm. à mon humble avis, pour gouverner, pour répondre à des journalistes, pour répondre à des questions en période de questions. Mais en campagne électorale, c'est plus difficile comme tel. Donc, tu pourrais prendre cette chance-là.
Mais tu vas te faire varloper par Trump quand va venir le temps de négocier en disant « Mon vis-à-vis n'a même pas été élu. » C'est quelque chose qu'on a entendu il n'y a pas si longtemps.
C'est exactement. C'est qu'on va encore avoir un gouvernement qui est faible, avec un leadership qui a certains handicaps qui vont nous nuire dans notre relation avec les États-Unis. Dans la vraie vie, là, si on pouvait revenir dans le temps... Là, il aurait fallu faire des élections l'automne dernier.
Oh oui, assurément.
Puis peu importe c'est quoi votre allégeance politique, de penser qu'un gouvernement qui est majoritaire et qui est bien en selle, qui a un niveau de satisfaction qui est élevé, tu sais, au début, les gouvernements ont des niveaux de satisfaction plus élevés qu'à la fin
la
de régime,
de miel,
la lune de miel, mm-hmm. ça serait beaucoup plus avantageux dans notre guerre commerciale avec les États-Unis. Là, ce qui va se passer, c'est que
comment?
C'est-à-dire que quand tu as un gouvernement qui a les coups des franges, qui n'est pas dans un gouvernement qui est minoritaire, tu peux passer tes lois assez facilement. Tu n'es pas tout le temps en train d'être dans des...
Parce que quand... Des négociations.
Des négociations avec les autres parties, mais aussi à l'interne. Parce que quand ça ne va pas bien, là, ça grenouille à l'interne. Là, tu réponds à des questions là-dessus plutôt
qu'à sur
ton objectif. Exactement. Donc, on devrait tous souhaiter d'avoir un gouvernement qui est fort, qui est majoritaire pour faire face à M. Trump, peu importe nos allégeances politiques comme telles. Mais là, ce qui risque d'arriver beaucoup plus, c'est qu'on va être en campagne électorale, puis ça va être un peu long avant qu'on ait un discours du trône, un budget, une direction.
Un gouvernement fonctionnel.
Ou on a un gouvernement qui s'accroche, donc un gouvernement libéral avec un chef non élu.
Un gouvernement minoritaire avec un chef non élu.
Minoritaire avec un chef non élu qui est en fin de régime, qui est très usé, parce que là, les gens vont se rappeler aussi. T'sais, à un moment donné, on est bombardé par Trump, sauf qu'il y avait des raisons pour lesquelles les gens étaient tannés des libéraux.
Puis c'était pas juste Justin Trudeau, là. C'était au-delà de ça. Là, je comprends qu'actuellement, on sort Mélanie Joly, on sort Dominique Leblanc, puis tout le monde paraît donc bien. Mais il sort Mélanie Joly il y a 3 mois, puis c'est pas là qu'on était, mais
on n'était pas du tout au même endroit. Puis c'est sûr qu'en ce moment, c'est une situation qui est spéciale, mais il y a des choses qui vont ressurgir inévitablement. Puis juste les sondages en ce moment nous le démontrent.
Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans les engagements en général au fédéral, puis les provinces embarquent là-dedans aussi. C'est quand on parle que pour faire face à ces fameux tarifs-là, il faut laisser tomber les barrières pour le commerce interprovincial. Il y a déjà certaines provinces qui l'ont fait. On en parle au fédéral. Il y a certains éléments qui ont été tombés, même qui ont été laissés tomber, pardon. Puis même François Legault en a parlé. Sauf que historiquement, la province avec laquelle c'est le plus tough de faire affaire à l'intérieur du Canada, c'est le Québec. Ça vient de où? Puis pourquoi? Puis on peut-tu sortir de ça? Ouais.
Il y a deux raisons principales pourquoi le Québec, c'est toujours un petit peu plus compliqué. La première, c'est le français. Ah. Absolument. Puis ça, c'est une barrière qui est importante au commerce, puis pas seulement avec les autres provinces, avec les autres pays dans le monde aussi. Mais ça, c'est un choix de société.
C'est à cause de nos exigences par rapport à nos manières de faire les choses.
Vous avez déjà vu, des fois, il y a des concours, puis là, mettons, vous achetez une canette de je sais pas quoi.
Puis tu peux pas gagner au Québec parce que les règles sont pas en français.
Exactement. Puis souvent, c'est des questions de langue française. C'est juste un exemple qui est pas bien grave, mais ces exemples-là, ils sont nombreux. Il y a aussi des obstacles en termes de mobilité de main-d'œuvre. Là, si on veut faire des grandes infrastructures, puis on veut se lancer dans des grands projets, bien, la mobilité de la main-d'œuvre, puis la collaboration entre les provinces va être importante aussi. C'est pas des barrières qui ont été mises nécessairement avec la volonté de bloquer les autres provinces. Hein. Souvent, c'est
C'est pas de la mauvaise volonté.
C'est pas de la mauvaise volonté. Puis la deuxième raison, c'est la particularité un peu du Québec. C'est-à-dire que même souvent, on est des précurseurs sur plein de dossiers, mais on n'a pas de réflexe de dire, OK, mais comment ça va s'intégrer avec les autres provinces? On a la qualité de nos défauts, là, dans le sens que souvent, on est en avant de la parade sur plein de choses.
Des programmes, entre autres. Là.
Des programmes, puis après ça, il y a d'autres provinces qui vont embarquer, le fédéral, etc. Mais on n'a pas ce réflexe de se demander comment on pourrait se coordonner avec les autres provinces. Puis là, j'entends au niveau fédéral nous dire oh, on va éliminer des barrières. Mais en même temps, il y a des juridictions qui sont locales, qui sont provinciales. Est-ce que le fédéral va commencer à décider puis à rentrer comme un bulldozer? Ça va être un jeu de négociation aussi, parce que là, tout le monde est d'accord en ce moment, mais le diable est dans les détails. Puis quand on va dire non, bien là, c'est toi qui vas changer ta réglementation, il y a des choses que je pense que ça va être plus facile que d'autres, mais sur la langue française notamment, ça va faire tout un débat. Il y en a plein aussi au niveau de tout ce qui est nourriture, là, les exigences. Nous, on a un ministère de l'Agriculture. Mm-hmm. Il y a certaines exigences qui font en sorte que il y a d'autres provinces canadiennes qui ne sont pas capables de vendre certains aliments au Québec. Ça va être de vraiment faire un travail de moine puis de s'assurer est-ce que toutes ces barrières-là sont nécessaires? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour essayer de pallier un peu ce qu'on a perdu du côté des États-Unis? Mais historiquement, ça a toujours été plus facile de faire du commerce nord-sud que est-ouest au Canada. C'est vraiment rien de nouveau. Mais là, dans chaque crise, il y a des opportunités. Puis de devenir plus agile, plus efficace, augmenter notre productivité, diversifier nos marchés.
Ça peut nous servir par la suite, là, pas juste à court terme.
C'est ça. Puis tu sais, le premier ministre Legault, cette semaine, disait on pourrait peut-être même ressortir plus fort de cette crise-là. Je pense que c'est dur en ce moment d'être optimiste, mais c'est vrai qu'il y a des occasions à saisir parce qu'il y a des choses qui sont très, très lourdes au Québec. Il y a des non-sens bureaucratiques entre les provinces qu'on pourrait peut-être faire tomber. Profitons de l'occasion.
C'est des éléments qui prennent énormément de place dans l'actualité. C'est comme si on vivait une mini-éclipse médiatique, alors que la semaine dernière, ce dont on parlait, c'était pas mal plus les dépenses qui allaient avec sa clique et tout en douceur. Là, il y a Éric Kerr qui s'est fait démissionner, si on veut. Et il y a un François Legault qui, en fin d'après-midi, a décidé avec un tweet que finalement, il écoutait les oppositions, il écoutait l'opinion publique et qu'il allait aller au fond choses avec une enquête. Tu l'entends, hein?
J'entends sa voix dans ta
tête.
Oh,
mon Dieu!
Bonjour tout le monde.
C'est l'enfer! On en a parlé hier, on est toutes PTSD de sa voix.
Faudrait que tu fonces un peu plus, par exemple.
Bonjour tout le monde.
Ouais, on est là. Okay.
Donc, il y aura une enquête publique pour aller au fond des choses. Quand un politicien décide de se ranger de ce côté-là, est-ce que c'est une histoire de c'est pour sauver la face?
Bien pareil.
Est-ce qu'on n'a juste plus le choix? Puis est-ce que ça a déjà bien servi un gouvernement d'à un moment donné faire le ménage dans ses affaires?
C'est très complexe parce que, premièrement, à la fin de la semaine, dans tout ce scandale de sa clique, oui, la démission d'Éric Kerr, ça baissait un peu la chaleur. Puis, tu sais, tout est timing tout le temps dans la vie. c'était la fin de la semaine et là, les élus partaient pour 2 semaines de congé.
Oui, ils sont souvent jusqu'au 18, c'est ça?
Exact. Donc, c'est le travail en circonscription. Ce qui fait qu'il n'y a plus de période de questions, ce qui fait qu'il n'y a plus de mêlée de presse dans les corridors avec les journalistes et nécessairement, la chaleur rebaisse un petit peu.
Timing is everything.
Ah, le timing en politique. Donc, François Legault, en plus, regardant aussi que les tarifs avec les Américains allaient entrer en vigueur le mardi, c'est sûr que d'annoncer ça durant la fin de semaine, ben c'est pas une nouvelle qui allait vivre extrêmement longtemps non plus. Par contre, on pèle en avant. Parce que oui, ça peut-être que ça fait baisser la chaleur puis ça sauve la face maintenant. Sauf qu'une commission d'enquête, c'est quelque chose qui est très risqué pour un gouvernement. Ils vont se mettre à fouiller dans tout. Ça va devenir extrêmement politisé. Mais ils ont probablement pesé les pour puis les contre puis de se dire que, écoutez, il faut qu'on élargisse un peu l'enjeu parce que la chaleur montait tranquillement vers Geneviève Guilbeault, vers François Bonnardel, puis vers le premier ministre en bout de ligne. Donc, on s'est dit, je pense qu'on va prendre la chaleur un petit peu plus tard, mais que là, ça brûle trop. On va la déclencher, cette commission.
Justement, aujourd'hui, à Cube Radio, Geneviève Guilbeault a mentionné que pour elle, c'était juste la pointe de l'iceberg puis qu'elle a milité pour une enquête publique parce que...
quand elle est arrivée, c'était déjà là.
C'est ça, puis qu'elle pense qu'il y a beaucoup plus. Puis son cabinet a comme laissé fuiter les derniers jours que, justement, ça remontait au premier ministre puis que si le premier ministre n'était pas au courant, quelqu'un de très, très, très proche de lui était au courant puis avait même accepté. C'est encore une guerre interne à la CAQ de Guilbeault contre Legault qu'on voit paraître.
On a cru sentir une légère tension, n'est-ce pas?
Hey, pour que le cabinet de la ministre Guilbeault coule ça sur le premier ministre.
Oui, mais je ne sais pas qui a coulé quoi. Mais moi, mon impression quand j'analyse cette crise-là, c'est qu'on s'est dit Geneviève Guilbeault est capable de prendre la chaleur. Puis c'est vrai qu'elle a cette qualité-là, elle est bonne en communication. Et ils lui ont fait porter le dossier. Hein. C'est pas beaucoup Éric Kerr là, qui a répondu. Là, la semaine passée, il s'est retrouvé sur la sellette, mais c'est vraiment elle qui s'est retrouvée avec ce dossier-là. Alors que c'est vrai que c'est un projet qui datait de plusieurs années.
Voire même de d'autres gouvernements. Là, ouais.
Ben, oui, puis qui a été approuvé par toutes sortes de personnes à toutes sortes de niveaux. Il ne faut pas penser que Geneviève Guilbeault, tout seul dans son bureau avec la SAAC, ils ont
après
signé
les
ça,
décisions.
Oui, mais elle a tweeté pour eux autres. Là.
Oui, puis je la crois en plus. Hein, parce que j'en doute très, même très pas, communication, ouais. Hein, Geneviève Guilbeault. Cela dit, effectivement, en politique, on essaie de ne pas faire ça, c'est-à-dire de jeter d'autres gens en dessous de l'autobus. Puis si je trouve un symptôme du niveau d'intensité de cette crise-là, quand on est rendu qu'on dit « Ouais, va voir aussi de ce côté-là, tu vas voir que c'est pas juste de ma faute. » Donc, il était temps que cette commission soit déclenchée. Puis, sur l'enjeu plus général, on a un énorme problème avec les contrats informatiques au Québec.
Puis on savait, Éric Kerr dans l'opposition en parlait à l'époque.
Il demandait cette enquête.
Le shérif.
En fait, on devrait d'ailleurs le remercier. C'est lui qui a demandé cette commission-là. C'est un accomplissement qu'il peut mettre dans son bilan.
On l'a juste pas fait au moment où il a été élu, qu'il a été nommé.
Oui, encore une fois. C'était un petit peu... Il y a eu un long délai entre les deux. Mais cela dit, je me rappelle très bien d'entendre Geneviève Guilbeault il y a 2 ans pendant la crise dire « Moi, on me présente des projets. J'ai pas les compétences pour challenger. » Quand c'est rendu quasiment à la moitié du projet, puis que si je dis, ben là, wow, on va arrêter le projet, ça veut dire quoi? On repart à zéro? Ça va coûter encore plus cher? Donc, cette commission-là, moi, je souhaite vraiment qu'elle aille au fond des choses, puis que oui, elle se penche sur sa clique, mais surtout sur des recommandations de comment on peut faire mieux les choses.
Au-delà du gouvernement actuel, au-delà de l'imputabilité.
Ça a touché tous les gouvernements.
Parce que de ce que je comprends, c'est qu'actuellement, il y a plusieurs projets informatiques où les gens qui les gèrent sont excessivement stressé. Pas
sûr.
Parce qu'ils sont en train de s'en aller dans le champ, c'est juste qu'ils se disent « Hey, faut pas qu'une affaire de même nous arrive. »
Puis c'est ça l'affaire, c'est que si on va pas au fond des choses avec cette commission d'enquête-là, puis si on change pas nos façons de faire, ce qui risque d'arriver, c'est que les ministres vont dire « Hey, moi, là, j'en ferai pas de projet de virage numérique. C'est pas vrai que je vais me ramasser dans la même situation. Puis j'ai pas non plus les compétences pour challenger les experts en la matière puis les gens de l'externe qui viennent faire ces projets informatiques-là. Donc, ça risque d'augmenter encore plus notre retard numérique dans l'appareil gouvernemental puis de rendre notre appareil gouvernemental encore moins efficace. Donc, on est devant le mur. Tout le monde, on n'a pas le choix. Puis oui, il fallait de l'imputabilité du côté du gouvernement de la CAQ. Sauf que c'est pas vrai que c'est juste une affaire de CAQ. Tous les gouvernements ont eu leur fiasco informatique. C'est un problème qui est beaucoup plus profond. Donc, cette commission-là, elle devrait servir à ça, retourner toutes les pierres puis faire des recommandations pour s'assurer que ça n'arrive plus parce que c'est un vrai scandale et c'est de l'argent qu'on pourrait mettre vraiment sur d'autres choses qui, finalement, ne nous donnent même pas des outils informatiques qui sont si extraordinaires que ça. Peux-tu dire la vérité? Là, ça clique, ça marche bien maintenant en passant. Là. Je ne sais pas si tout le monde a ouvert.
J'ai pas eu besoin encore
non plus, j'en ai pas
faire affaire avec ça clique.
Moi, ça a bien été. Il y a comme 9 étapes. Ben, j'ai fait une série de tweets tweet là-dessus pendant... J'ai tout documenté
C'est sûr que ta plaque est correcte? Es-tu fait intercepter récemment? Écoute, peut-être que ton permis fonctionne
pas. J'avais un doute que j'avais payé mes plaques ou pas. Je me suis connectée sur SACLIC, j'étais allée chercher mes papiers, puis tout a bien été. Mais c'est vrai que c'est un peu long, puis là, tu reçois un code par la poste, puis gna, là, puis ça prend ta ligne, machin, de ton avis de cotisation, puis ton rapport d'impôt.
Mais d'un autre côté, s'il y avait des problèmes de sécurité, on serait les premiers à acheter aussi.
Ben, c'est un peu ça. Mais cela dit, ça, est-ce que ça valait 1 milliard? Pardon, c'était rendu compte?
1,1. 1,1 ou 1,2. Puis il y a d'autres argent qui a été dépensé récemment, là, qu'on vient de voir.
Donc, tu sais, on fait mal nos appels d'offres, on fait mal notre gestion de projet, on n'a pas de compétences à l'interne dans les ministères ni dans les cabinets pour faire des bons suivis. À un moment donné, il va falloir qu'on se réveille parce que c'est notre argent qu'on gaspille puis qu'on jette dans le feu.
Antonine Iacarini, analyste politique, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On avait quand même une bonne variété de sujets.
Et puis on a laissé tomber, là, j'aurais pu venir faire tout le show avec vous autres.
Ça aurait pu être 4 heures, puis on aurait du fun, puis on aurait pu parler de musique au travers, puis plein d'autres affaires. À un moment donné, on se fera un sujet
à côté de la traque, ça pourrait être le fun.
Invitez-moi.
Je pense qu'on a tous besoin de ces moments d'air. Oui. Fait qu'Antonine, on continue à t'entendre, entre autres, parfois sur nos ondes dans le show de Marceau, mais on te voit régulièrement à la télévision et sur les médias sociaux. Tu es absolument stellaire. Vous écoutez Gravel dans le retour sur les ondes de Boulevard 102. Il y a quoi que ce soit, vous voulez réagir, vous avez des trucs que vous avez vus sur la route, n'hésitez jamais. Notre texto, le 418-971-1021. Gravel!